France Inter. L'actrice et mannequin Mélanie Thierry a fait ses débuts à l'écran à 16 ans dans Quasimodo del Paris de Patrick Timsit, puis a imprégné les pellicules de Mathieu Kassovitz, Bertrand Tavernier, Albert Dupontel, Maïwenn, André Téchiné, Denis Arcan ou Spike Lee. Elle nous a envoûtés dans des publicités et s'est aussi souvent illustrée à la télévision ou sur les planches. Elle vient de signer sa troisième collaboration avec Emmanuel Finkiel. Elle a joué dans Je ne suis pas un salaud, dans La douleur. Elle est à présent à l'affiche du film La chambre de Mariana, adapté du roman de l'écrivain israélien Aaron Appelfeld, que vous pouvez lire, traduit de l'hébreu, par Valérie Zenati. Mélanie Thierry y interprète avec brio Mariana, prostituée ukrainienne à laquelle une amie d'enfance confie son petit garçon Hugo afin de lui éviter la déportation. Nous sommes en 1943, Mariana va cacher l'enfant dans son placard et ce dernier ne percevra le monde que par une petite ouverture dans le bois. La fille de joie est évidemment triste et affectionne l'alcool. Une relation de tendresse va peu à peu se tisser entre ces deux sinistrés de l'existence. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Mélanie Thierry.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
La dernière chose, j'ai emmené mon fils, le moyen, le petit de 11 ans, avec un de ses copains, voir le film des Lumières, qui est sorti là, il n'y a pas assez récemment, des Frères
Lumières. Frères Lumières.
Mais je me suis dit, bon, je les emmène comme je les emmène au musée, peut-être on n'y restera pas tout le long, déjà une demi-heure c'est déjà pas mal, parce que ça va être des images comme ça qui vont succéder, est-ce qu'ils vont y prendre goût, est-ce qu'ils vont s'emmerder, je ne sais pas, mais ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma. Et ça a été, c'était, ce qui était aussi merveilleux, c'était de voir les images qui étaient d'une beauté inouïe et de voir les visages illuminés de mes enfants. De mes enfants, en l'occurrence un et de son pote. Mais parce que ça marche. Voilà, c'est des images qu'on sent 20 ans et ça marche. Ils se marrent des conneries des enfants qui jouent à bicyclette. Ils se marrent de voir un chaton s'accrocher au rideau. Ils découvrent le saute-mouton parce qu'on joue plus à saute-mouton aujourd'hui dans les cours de récréation.
Ah bon ? C'est pas vrai.
Non, en tout cas, c'est
mince, je me sens très très âgée.
Ouais. Oui. Mais voilà, c'est en tout cas toutes ces choses-là où on assiste à un moment magnifique où on voit un film qui est très émouvant parce que ça procure de grandes émotions. Et ça marche aussi sur des enfants qui n'ont pas l'habitude pourtant du noir et blanc et du muet.
Est-ce qu'il s'agit bien de Lumière, l'aventure continue de Thierry Frémaux ?
Voilà, c'est ça.
Ah, formidable, donc ils sont restés jusqu'au bout.
Alors, je ne vais pas mentir, on est parti
20 minutes
avant la fin.
Ah non, ça va.
Non, je crois que le film faisait 1h15 ou 1h20 et qu'on est parti au bout de 55 minutes, je dirais.
Oui, c'est une victoire.
C'est pas mal,
oui.
C'est bien.
Oui, c'est très bien.
Mais il faut savoir partir au bon moment.
Oui.
Pour ne pas les gaver.
En général, dans la vie.
Toujours.
Toujours.
Avoir le sens du rythme, le sens du tempo.
Vous voulez important. Qu'on parte maintenant ? Qu'on aille ensemble au cinéma, on laisse tomber l'émission ?
Non, moi j'ai envie...
Vous avez envie de la faire ?
J'ai envie d'être au présent avec vous.
Bon, j'essayais quand même de faire une petite sortie ludique, mais tant pis, je reste en studio. En parlant d'enfance, il paraît que petite, vous étiez un garçon manqué.
Je ne sais pas ce que c'est qu'un garçon manqué, je sais juste que j'étais plus à l'aise en jogging.
Mais qui ne l'est pas.
À enfourcher mon vélo cross, que dans ma rue, il y avait surtout des garçons de mon âge, et que je passais mes après-midi avec eux, et que c'était plus sympa de jouer sur un terrain vague, en vélo, les cheveux en bataille, et revenir avec les genoux terreux, plutôt que de jouer en solitaire avec une poupée dans ma chambre, quoi.
Dans une interview récente pour Télérama, Mélanie Thierry, vous dites, je vous cite... J'aime mon quotidien, j'aime la répétition, je préfère mille fois dîner avec mon mari et mes trois gosses que d'aller me faire chier à un dîner mondain où je suis obligée de m'enivrer pour faire semblant d'être à l'aise. Et alors ce qui m'intéresse dans cette phrase...
C'est la grossièreté, c'est ma vulgarité.
Non, pas du tout.
J'aurais pu être moins grossière que
non, mais c'est la spontanéité.
Mais
non,
la même chose.
Mais... Moi, je préfère la spontanéité aux gens qui s'écoutent parler. Et ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est pas que vous préfériez les soirées familiales aux mondanités, mais le fait de faire semblant d'être à l'aise, parce que c'est rafraîchissant en fait de le soulever. Parce qu'on, finalement, on joue joue sans cesse la comédie dans le réel. On fait toujours semblant d'être à l'aise en société, avec les autres.
Non, ça dépend quand même de notre tempérament, de notre nature. Et puis pour certains, c'est pas un effort. Pour certains, c'est pas une souffrance. Moi, c'est quelque chose, oui, où je suis pas toujours à l'aise. Parce que, alors j'ai pas envie de mettre ça sur le compte de ma timidité, parce que ce serait trop facile. Mais peut-être que je m'ennuie. Peut-être que j'ai peur que les autres s'ennuient avec moi. Il y a ça aussi, peut-être. Et quand ça brasse beaucoup de monde, j'ai du mal à prendre mon air, en fait. Voilà. Ce qui n'est pas le cas quand je suis à la maison, j'imagine, forcément. On se doute bien.
Vous avez des amitiés plutôt exclusives ou plutôt des bandes ?
Non, plutôt exclusives.
Et vous arrivez à vous confier aisément ?
Si je me confie aisément, je me confie très peu.
Vous êtes pudique ?
Moi, oui, je crois que ça fait partie de mon éducation. Mon père est très pudique, ma mère l'est tout autant. On n'a pas, je dirais qu'on ne m'a pas appris à mettre les mots. Ça n'a pas fait partie. C'était pas évident, c'était pas si simple.
Dans une interview, justement, vous dites que plutôt que de vous exprimer, vous préférez vous exprimer à travers vos rôles. Vous avez l'impression qu'on vous comprend mieux à travers vos rôles.
Parce que j'ai l'impression qu'on accumule beaucoup d'émotions, c'est comme un sac comme ça qu'on remplit et de plein de choses, de rencontres, de moments, de frustrations, d'envies, et puis parfois il faut se débarrasser des choses. En tout cas, il faut qu'il y ait un endroit où ce soit exutoire. Alors certains vont voir le psy, et je comprends que ça puisse aider à mettre des mots sur les mots et de pouvoir s'alléger l'esprit, parce qu'on cherche toujours à ce que l'esprit soit plus léger. Mais moi, à travers les personnages, c'est vrai que c'est un endroit idéal. Déjà parce que je suis pas toujours très habile avec mes propres mots, et que quand on me donne un texte à apprendre, j'arrive toujours à m'y retrouver et à avoir la sensation que ça parle de moi. Et c'est plus facile de m'en emparer. Voilà.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Je savais qu'il savait. Qu'à chaque heure de chaque jour, je le pensais. Robert n'est pas mort au camp de concentration.
Depuis l'arrestation de Robert, le réseau est fragilisé. Ils vont chercher à tout remonter.
Vous êtes la femme d'Antel ?
Oui, c'est ça. J'ai rencontré le flic qui a arrêté Robert.
Pardon, le salaud de la Gestapo.
Je suis très flatté d'être assis à la même table qu'un écrivain.
Je ne suis pas ici pour parler littérature, vous le savez bien. Je suis là pour parler de mon mari.
Pour votre colis, je vais voir ce que je peux faire.
Merci. Il faut que je fasse attention. Je vois ce qu'il essaie de faire.
Vous connaissez cet homme ?
Il se sert de moi, alors même que je crois me servir de lui.
Si vous m'aidez à le retrouver, je ferai en sorte que Robert ne soit pas déporté.
Comment ça, déporté ?
Marguerite ! Marguerite ! Marguerite !
Mélanie Thierry, on vous entend interpréter Marguerite Duras dans la bande-annonce de La Douleur d'Emmanuel Finkel, sorti en 2017, adapté du livre éponyme. Et c'est un rôle que vous avez eu du mal à quitter, ou plutôt vous dites que Marguerite Duras a eu du mal à vous quitter.
Non mais c'est un ami pour la vie. On passe du temps avec ces personnages. En plus, Emmanuel, il m'offre des rôles qui nécessitent quand même
oui.
une forme d'engagement total, où son cinéma est immersif, mais la préparation l'est tout autant. Alors, on s'attache aux personnages qu'on joue, forcément, et on passe du temps avec eux.
Vous dites que vous avez l'impression que vous vous êtes beaucoup occupées l'une de l'autre.
Oui, on s'est beaucoup occupées l'une de l'autre.
Qu'est-ce que ça signifie ?
C'est-à-dire que c'est un accompagnement, c'est une façon de penser en permanence à l'une à l'autre, mais pas forcément à Duras. C'est à l'héroïne que Duras raconte dans La Douleur, parce qu'il s'agit d'une évocation, il ne s'agit pas de jouer Duras et de chercher une forme de mimétisme et d'être dans quelque chose comme ça, de l'écrivain qu'on connaît chez Pivot. Il ne s'agissait pas de ça. Il s'agissait de Duras avant Duras. Donc déjà, j'étais vachement protégée par cet aspect-là, qu'elle n'était que Marguerite Donadieu ou autrement Marguerite Anthème, puisqu'elle était déjà mariée à Anthème. Et puis, il s'agit de Duras qui raconte et qui observe sa propre douleur à travers cette héroïne, C'est une héroïne dont il s'agit dans le roman. Donc c'est à la fois elle, mais pas tout à fait. C'est ce qu'elle fantasme d'elle. Donc toutes ces choses-là me permettaient d'être vachement protégée finalement. Et comme le cinéma d'Emmanuel, il reste, très évocateur comme ça. Et ça me permettait de pouvoir faire quelques faux pas et d'avoir une forme de liberté aussi. Et de ne pas me sentir dans un carcan à vouloir à tout prix chercher quelque chose dont en plus je ne suis pas capable.
C'était un sacré défi pour vous, puisque vous avez rappelé lors de la sortie du film que vous apparteniez à un milieu populaire et que vous n'avez jamais eu de difficulté à vous envisager dans des métiers du peuple.
J'ai toujours eu des difficultés. Vous n'avez pas dit jamais ?
Jamais à vous envisager dans des métiers du peuple.
Ah oui, d'accord. Ah non. Ah oui, oui.
Je vous cite texto. Duras, une figure littéraire, ça me paraissait tellement loin de moi.
Bah, c'est-à-dire que cette dimension intellectuelle et littéraire, oui, c'est vrai que ça me semblait... c'est très loin de moi. C'est pas que ça me semble, ça l'est.
Mais ça l'est de moins en moins.
Ah non, ça l'est toujours autant.
Mais vous lisez.
Oui, mais c'est pas parce qu'on lit que moi j'appartiens à... Quand par exemple Tavernier me disait que j'étais une actrice de plein air, là je m'y retrouve. Là c'est un endroit où je me dis, oui c'est vrai, ça me ressemble, je suis terrienne, je sens que j'ai vraiment les deux pieds au sol, je suis enracinée, je suis bien dans la nature, je suis faite pour être à la campagne. C'est un endroit où je sens que je fais corps avec la nature, quoi. Un livre, c'était pas gagné.
Vous dites que dans un personnage, on donne toujours une part de soi et que incarner Duras, ça vous a permis d'assumer une dureté, d'assumer un égoïsme, une autorité, quelque chose de pas aimable.
Mais parce que je suis pas commode.
Vous ne l'êtes pas.
Moi, je ne le suis pas.
Ah oui ?
Et je crois que dès lors que j'ai accepté de ne plus chercher à séduire forcément à travers un rôle, j'ai trouvé autre chose qui me donnait plus de liberté et dans lequel j'avais plus d'inspiration, quoi.
Et en quoi vous n'êtes pas commode ?
Bah, je suis pas dans la séduction. Je suis pas. J'ai pas la sensation en tout cas.
Mais ça, c'est une vraie liberté. C'est rare.
Ah, ça, je sais pas. Mais une fois que c'est assumé et que je n'essaye plus de tricher là-dessus. Ça me permet d'avoir un terrain d'amusement plus vaste, quoi.
J'imagine que vous sortez enrichi de tous vos rôles. Est-ce qu'il vous arrive d'en sortir abîmé ?
Non, rarement, très rarement abîmé. C'est juste que quand un tournage s'achève, parfois, on a un petit moment de... Pas d'abattement, moi je suis très contente quand ça s'arrête. Hein. Mais... Non, mais c'est parce que c'est tellement... C'est un don quand même. C'est un peu pompeux de dire c'est un don de soi. Mais il y a quand même un petit peu de ça, quand même. Un court moment de notre vie, l'abandon qu'on y met, et parfois, quand ça le nécessite, hein, quand les rôles en valent la peine, quand on est... Bah, quand un metteur en scène nous aide à ce que ça existe, c'est quelque chose où on est rincé, où on se sent pressé comme un citron. Il faut revenir à la maison et se recharger pour avoir à nouveau le désir d'autre chose, quoi.
Alors, je l'ai dit en introduction, c'est votre troisième collaboration, La Chambre de Mariana, avec Emmanuel Finkiel. Vous avez aussi joué dans Je ne suis pas un salaud. Est-ce que vous savez que le téléfilm qu'il a fait en 96 s'appelait Mélanie ?
Oui,
vous étiez prédestinée.
Tvoja matiska za vas čuje, ljubiš se tate. Tut, u tebe bude čas. Tu ne jiv. Treba jeste. Коли постукають у двері, не шуми. Пиши у сховку. Зрозумів?
Mélanie Thierry, on vous entend dans La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel, adapté d'un livre d'Aaron Appelfeld traduit en français par Valérie Zenati. Je précise pour les auditeurs qu'Aaron Appelfeld a été séparé très jeune de ses parents en raison de la guerre et a vécu pendant 3 ou 4 ans seul dans la forêt où il a rencontré des prostituées dont il s'est inspiré pour écrire La Chambre de Mariana. Et la chose la plus remarquable du film, et j'imagine que tous les médias vous en parlent, c'est que vous jouez en ukrainien. Donc évidemment, je vais vous demander comment vous l'avez appris. J'imagine un peu musicalement pour l'accent, parce que vous dites que vous avez une mauvaise oreille, mais on a du mal à vous croire.
Non, j'ai pas une très bonne oreille. Je chante assez faux. Je chante même assez faux.
Alors,
après, quand je me donne du mal, alors quand je travaille, finalement, j'arrive à faire illusion. quand il faut chanter dans un film des frères Larrieux, ça marche. Peut-être qu'il y a un petit peu de... qui bidouille un petit peu derrière pour que les faussetés soient un peu effacées. Mais
là, vous ne pouvez pas faire semblant, on vous entend, vous êtes ukrainienne. Mais moi,
j'ai des souvenirs de, à l'école, en cours de chant.
Je me marre parce que vraiment, c'était tellement gênant.
Je suis pas douée, je chante pas très bien. J'ai jamais chanté devant mon mec parce que j'ose pas, parce que vraiment, je sais que c'est il me dira jamais rien.
Ouais, mais c'est son métier, c'est pas difficile.
Je sais que j'ai un grand manque de justesse. Mais en revanche, je suis une travailleuse, je suis une laborieuse, mais je suis rigoureuse.
Alors là, il y a eu des universitaires, des comédiennes pour vous aider, et cette fameuse méthode Tomatis.
Oui, déjà on m'a laissé le temps de travailler, hein, parce que on m'aurait donné 3 mois pour jouer ce rôle en ukrainien, j'en aurais pas été capable, ça n'aurait pas eu le temps, j'aurais pas eu l'incubation qu'il aurait fallu, ça n'aurait pas été possible en fait. Donc là, j'avais un temps important que j'ai consacré pleinement. J'ai été dédiée à ça pendant 2 ans. Ça me paraît vertigineux de dire, alors je n'ai pas fait que ça pendant 2 ans. J'ai tourné d'autres films, le film étant retardé, j'avais encore le temps de tourner un autre film, et puis de faire une pause, et puis de revenir à mon ukrainien. Bon bref, et c'était pas mal ces pauses, parce qu'à la fois c'était des moments très intensifs, et puis tout d'un coup, hop, je mettais sur pause pendant 1 mois, ce qui fait que ça avait le temps de faire son chemin, de se reposer, et puis ensuite d'y revenir plus fraîche. Mais ça a été un long travail, oui, il y a eu à la fois Automatis, alors ça c'est vachement bien.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est un système qui te permet de rééduquer d'une certaine façon ton oreille et qui te permet de percevoir les sons que t'entends pas, les fréquences. Donc je me suis trimballée avec un casque sur les oreilles pendant un bon bout de temps. Et en fait, il faut rien faire quand t'as ce casque sur les oreilles. C'est-à-dire que la seule chose, t'as pas le droit de lire, interdiction, t'as pas le droit de regarder ton téléphone, encore moins. Et en fait, t'as le droit soit de dessiner, soit de faire du ménage.
Donc on n'est pas obligé d'être concentré sur ce qu'on entend.
Non, il faut surtout pas être concentré. Tu as même le droit de dormir.
Incroyable.
Bon, alors moi, j'allais pas dormir toute la journée parce que je passais des heures et des heures tous les jours. Mais bon, j'ai un appartement qui a été, mais alors, il a été flambant neuf après ces 2 ans. Cet appartement, je l'ai briqué dans tous les sens. Et puis j'ai dessiné aussi beaucoup. Hein, parce que donc j'ai un joli carnet, je pensais que je savais pas dessiner, finalement je me suis mis à l'aquarelle, c'était plutôt sympa. Mais c'est du temps en fait que tu passes avec ton personnage d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'à la fois tu as ce travail d'écoute qui existe et en même temps, c'est du temps que tu passes à réfléchir à ton personnage, de la façon dont tu l'entends, dont tu l'articules, comment ça se et ça se met en place doucement. Et puis après j'ai eu des ukrainiennes alors des universitaires et puis des comédiennes, une comédienne principalement, qui m'ont beaucoup aidée et qui ont été merveilleuses d'accompagnement, de bienveillance, de patience, et voilà.
En tout cas, Emmanuel Finkel avait fait des essais avec des comédiennes ukrainiennes, mais il vous décrit, vous, Mélanie Thierry, comme une virtuose. J'aimerais qu'on parle aussi de votre partenaire de jeu, donc le petit garçon, Hugo, qui est Artem Kirik, un petit garçon ukrainien qui a une beauté de tableau classique.
Ah, il est beau.
Il est sublime.
Il est magnifique. Il pourrait sortir d'un film de Visconti ou de Fellini. Il est d'une beauté à la renverse, quoi.
Il y a une mise en abîme, l'invasion de l'Ukraine par la Russie à grande échelle. Les enfants qui étaient venus pour le casting quittaient parfois leur pays pour la première fois de leur vie. Et ça vous a absolument bouleversé puisqu'on leur demandait de jouer des émotions qu'ils vivaient vraiment.
Bah, ce qui était bouleversant, alors bon, il y en a eu quand même pas mal des enfants qu'on a fait venir. Certains étaient à Paris déjà réfugiés, ils étaient avec leur maman. Et puis, ils ont fait des annonces en Ukraine, il y a eu quand même pas mal d'enfants qui ont voulu participer. Déjà parce que ça leur permettait de sortir de leur pays, hein, de pouvoir s'échapper et de pouvoir goûter à une expérience assez extraordinaire finalement. Mais toujours est-il que pour passer un casting en France, il faut quitter un pays en guerre, où les aéroports sont fermés, où il faut traverser des frontières pour pouvoir aller jusqu'en Pologne pour trouver le premier aéroport. Et ils arrivaient à Paris, les petits, c'est des piou-piou, c'est des petits garçons, complètement déboussolés, qui connaissent pas la langue, qui prenaient l'avion pour la première fois de leur vie généralement, de mon souvenir. Et oui, moi j'étais émue, quoi, émue de voir tant de fragilité, tant de vulnérabilité, à la fois une envie, quelque chose comme ça où ils avaient envie de faire du mieux qu'ils peuvent. Et c'était des moments bouleversants, oui, de les voir à la fois jouer des gamins qui sont planqués dans un placard. Alors que derrière les fenêtres s'affronte un monde en guerre, cruel, violent et sanglant, et que eux, leurs oncles, leurs pères sont au front. Donc forcément, c'est déroutant et on ne peut avoir qu'un sentiment comme ça, où on se rend compte de notre responsabilité en fait.
Comment est-ce que vous...
À les faire venir, à les faire jouer quelque chose où on se dit, mon Dieu, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Comment on les accompagne? Comment on leur explique? Comment on va chercher ces émotions? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à nous donner, à nous livrer? Et j'étais là avec mes petites boules, avec les boules à neige, là. Vous savez, quand on les retourne, ça fait de la neige. Eh bien, à chaque fois, j'en avais... Moi, j'habite Montmartre. Bon, à Montmartre, c'est parce qu'il manque des boutiques souvenirs. Donc, je descendais avec ma bicyclette avant de les rejoindre pour l'audition. J'achetais quelques boules à neige, ou à Tour Eiffel, ou à Montmartre, je sais pas. Et ils étaient heureux, finalement, d'être de passage et de voir la Tour Eiffel.
Comment vous avez communiqué avec votre partenaire de jeu? C'était en ukrainien?
Moi, mon ukrainien est assez médiocre.
Hein, non. Ça, vous pouvez pas dire ça.
Non, mais il est très bien quand je joue. Mais quand je parle, au niveau des temps, c'est pas ça. Hein. J'avais un certain vocabulaire. Mais
c'est-à-dire que ce qui était magnifique, c'est que ce tournage, on l'a tourné dans la continuité. Donc, on a vraiment commencé avec les toutes premières séquences d'Hugo. On se connaît pas. Il est farouche. Il est timide. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette femme-là? Et c'était qu'est-ce que me veut Mariana, mais tout autant qu'est-ce qu'elle me veut Mélanie. Y avait de ça. Et moi, je trouve ça bien que les enfants ne nous accordent pas une confiance comme ça, tout de suite. Ça prend du temps de s'apprivoiser, de trouver une connivence, une complicité. Et à chaque fois, c'est trois pas en avant et puis deux pas en arrière, parce que il faut pas brusquer les choses. Mais j'étais face à un petit garçon très intelligent et oui, il était d'une grande maturité. Il était hyper curieux de la fabrication d'un film. Je ne voyais jamais à quel point la répétition pouvait le fatiguer. Je veux dire, c'est compliqué de répéter les choses 20 fois. Hein. Il y a un moment, on en a soupé quand même. Et puis, il faisait une chaleur de bête. Il aurait pu à un moment, non pas montrer qu'il perdait patience, mais peut-être même se mettre à pleurer parce qu'il était fatigué. Mais jamais, il était comme ça, d'une résilience, d'une concentration. Il voulait être juste. Il arrivait à faire une dissociation totale entre son personnage et lui. Et en même temps, je voyais bien qu'il glissait quand même petit à petit dans les pompes de son personnage, ou en tout cas, je ne sais pas lesquelles se rejoignaient de ses pompes à lui ou de ses pompes d'Hugo, mais manifestement, il y avait comme un terrain comme ça flouté entre... Mais c'est souvent le cas. Hein.
Вимовек, факт же скончилося. Їй прийшов другий, богатший і лепший оде мене, і враз тобо скрадло щастя ме. Єдно мав просьбе, може останню, першу од вєлю лад. Дай мі те єдну неділю, останню неділю, а потім не хвалися свят, то остання неділя. Дзісяй ще розстанемо, дзісяй ще розійдемо на вічний час. То остання неділя, więc не жалуй ira. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie? Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się.
To ostatnia niedziela, chantée par Mieczysław Fog. Une chanson polonaise aussi belle que triste, dont on entend la version de Chór Dana dans le film La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel. En français, ça signifie « ce dernier dimanche » et c'est l'histoire d'un amant qui va se suicider car son amante a choisi un autre homme qui avait les moyens de lui faire vivre une meilleure vie. La séparation est imminente, ils passent un dernier jour ensemble, c'est « ce dernier dimanche » et dans le film, c'est un enfant et sa mère. Mélanie Thierry, vous avez un code pour appeler Hugo dans le film, c'est de siffler. Alors là, bon, question la plus profonde.
Si j'y arrive
Ah bah j'y arrive pas.
Oui, évidemment.
J'ai échoué lamentablement. Mais pourtant, non. Je me suis entraînée. Hein.
Mais j'allais pas vous piéger, j'allais vous demander comment est-ce qu'on fait pour siffler comme ça. Et vous auriez pu vous en sortir sans montrer que c'est
là,
un échec.
Que là, je bave lamentablement sur mes doigts et oui. Aucun son ne sort.
Mais non, mais ça fait du bien d'entendre
mon
ça.
Mon Dieu, merde.
On se dit que
c'est pas grave. Mais pourtant, j'y arrivais bien pendant
mais
le tournage. Je me suis même étonnée,
hein,
ça partait comme ça.
Il faut faire la méthode tomatiste.
Fiouf. Bon. Non, mais c'est pareil, ça a été un entraînement. J'ai des vidéos de moi
téléphone. Je vous crois, vous sifflez du tonnerre. Je vous crois. Regardez, j'emploie des expressions désuètes. Ce film est un hommage à l'imaginaire aussi, puisque Hugo, ce petit garçon qui est caché dans un placard, écrit, se remémore des moments de sa vie qui sont montés d'une telle façon qu'on dirait des visions hallucinées. Il y a même une cruauté dans ça, puisqu'il a des souvenirs de sa mère, il a l'impression que sa mère revient le chercher. Bon, et ce n'est pas vrai. Et à un moment, il y a une vision qui est mélangée avec un souvenir où une petite fille lui explique comment entraîner son imaginaire. Elle lui dit, tu imagines une chaise.
Moi, j'adore ce moment.
C'est magnifique.
Je trouve ça magnifique, ça me bouleverse.
Et tu l'as fait changer de lieu dans ta tête.
Bah, c'est cet espace où on en a besoin pour se protéger.
Et il n'y arrive plus à un moment quand il est trop malheureux.
On en a besoin pour survivre. Et puis c'est tout l'endroit de la transmission. La transmission de ses parents, de sa cousine. C'est un endroit qu'on chérit. C'est un endroit qu'on craint tellement d'oublier. Qu'on est obligé de le travailler en permanence. Et de faire appel à cette mémoire. Parce que c'est ça qui nous tient, c'est ça qui nous ramène à nos parents, et voilà.
Un imaginaire qui est tout de même parfaitement étranglé et qui disparaît quand il va trop mal. Il ne peut plus être ailleurs que là où il est, c'est-à-dire dans ce placard.
Ou peut-être autrement, il se raccroche aussi à ça. À ses souvenirs qu'il va convoquer pour se donner du courage. Et puis, parce que c'est un enfant brisé, je veux dire, il sait que ses parents, il ne les reverra plus. C'est quoi cette vie? Cette vie dans ce placard, ça va finir comment? Et puis finalement, Mariana, c'est la banalité du bien. Elle est là pour lui insuffler comme ça ce souffle de vie qu'il a perdu, pour pouvoir lui redonner espoir. Je veux dire, elle est dans des excès en permanence. Elle pousse tout à l'excès,
ouais.
Mais elle pousse tout à l'excès d'émotion. De sa maternité, de sa vie, de sa joie de vivre. Alors aussi du drame et de la tragédie parce qu'elle le porte. Mais il y a ça. Et peut-être aussi qu'il a moins besoin de convoquer ses souvenirs dès lors qu'elle lui permet de croire que la vie a le droit de...
Ah oui,
qu'il a le droit aussi encore... qu'il a le droit à une existence.
C'est voilà. Un autre point de vue bien plus optimiste que le mien, ce qui n'est pas difficile, c'est bravo. Parce qu'on pourrait se dire, justement, vous le soulevez en partie, on pourrait se dire que ce petit garçon est plus malheureux que Mariana. Mais finalement, la vie dans cette maison close est terrible aussi pour Mariana. Et elle lui dit un moment cette phrase, quand il pleure, le désespoir, c'est pour les faibles, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que vous en pensez?
Mais c'est-à-dire que quand cet enfant arrive... Elle se rend bien compte qu'elle est passée à côté de sa vie, qu'elle a tout perdu, elle n'a même pas besoin de regarder dans le rétroviseur. Et là, tout d'un coup, cet enfant qui arrive, c'est un accès à la pureté, c'est un accès à l'innocence, et il y a comme une création de l'amour dans tout ça, parce qu'elle a le droit, ils ont le droit de s'aimer. De l'aimer comme une mère, de l'aimer comme une amie, de l'aimer... je veux dire, tout ça doit exister. Et de continuer cet apprentissage et cette initiation. Alors ça va être l'éveil à la sensualité, l'éveil à la sexualité. Forcément, il se trouve qu'on est dans la chambre d'une
d'une
prostituée.
Bien sûr, donc il se passe des événements qu'on appelle le coït. Et dans ce film, ce qui est étrange, c'est que le sexe cohabite avec la mort, puisqu'il y a la présence des soldats partout, il y a la guerre, mais pas vraiment avec le désir.
Comment ça ?
On sent pas le désir dans ce film.
Le désir de qui ?
Bah, le désir sexuel. On est dans un bordel, mais on sent pas le désir sexuel, on sent plutôt la mort.
Parce que c'est un endroit que de brutalité, de violence... cet endroit de désir n'existe pas. On n'est pas en train de vouloir de donner de la beauté au métier de putain, franchement. Il s'agissait pas de ça, quoi.
Non, bien sûr, mais je parlais du sexe en général, évidemment pas.
Mais après, ce que je trouve beau, c'est que chez Appelfeld, qui est quand même un témoin direct de la Shoah, qui a toujours raconté la Shoah à travers les yeux d'un enfant. Il a toujours célébré la beauté. D'une façon ou d'une autre, cette beauté, il l'a toujours célébrée, même sur des toutes petites choses. Sur la bonté, sur l'émerveillement de la nature. Et en fait, c'est des toutes petites choses comme ça qui lui ont permis de le sauver, de le maintenir en vie. Et c'est ce que j'aime aussi dans le film, c'est que finalement, Emmanuel, d'une façon extrêmement pudique, célèbre toujours cette beauté-là, toujours à hauteur du regard de l'enfant.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
When I sing about love and war, I don't really know what I'm saying. I've been in love and I've seen a lot of war, seen a lot of people praying. They pray to Allah and they pray to the Lord, and mostly they pray about love and war.
Mélanie Thierry, on vous avait demandé un choix musical et une découverte. Et comme je n'ai pas eu les informations, vous ne le saviez pas, mais c'est pas grave du tout.
Non mais j'ai oublié.
Non mais j'ai dû ruser, et j'ai rusé. Car je suis détective privée et donc j'ai trouvé une interview de 2010, ouais. L'Express, où vous disiez que votre album préféré c'était Le Noise de Neil Young, et là on entend Love and War.
Ah bah moi je trouve ça magnifique, c'est tellement profond et ça va tellement, ça appuie tellement à un endroit. Je veux dire, Neil Young c'est merveilleux quoi. C'est...
And leave a lot of young brides waiting. Watch them try to explain it to their kids. Seen a lot of them failing. They tried to tell them and they tried to explain why daddy won't ever come home again.
Cette voix, il passe en concert là bientôt.
Ah oui ?
Oui, il passe bientôt en concert. On y sera.
Pour la découverte, je propose de parler de ce que vous apprenez sur les tournages, parce que ça c'est quand même un côté très intéressant chez les acteurs, c'est que parfois ils apprennent des nouveaux talents pour un tournage. Et alors vous, par exemple, pour ce film-là, vous avez appris à faire du cheval.
Madame ?
C'est une chasse rendue nécessaire par la trop grande abondance du gibier. Elle est, paraît-il, un plaisir pour ceux qui se reposent de tuer des hommes en sacrifiant cerfs et biches. Mais pour moi, c'est un spectacle sans attrait.
Vous êtes bien cruel pour notre cousin qui excelle dans les deux tueries. C'est égal, mon pensier est bien coupable d'avoir privé la cour de son plus bel ornement. Vous lui en ferez reproche de ma part, madame.
Vous pourrez le faire vous-même, monsieur. Car j'entends sonner la fin de sa boucherie.
C'est un extrait de La Princesse de Montpensier de Bertrand Tavernier, sorti en 2010. Vous avez appris à faire du cheval, Mélanie Thierry, pour ce film, et de l'aïkido pour Babylone AD de Mathieu Kassovitz. Impressionnant.
Et qu'est-ce qu'on nous fait pas faire, hein?
Bah oui. C'est quoi la prochaine mission de la samba?
Je sais pas. Là, je crois que j'ai monté l'Everest en apprenant l'ukrainien quand même. C'est ce qui m'a paru le plus compliqué.
Ah oui.
C'est l'endroit où je me suis dit vraiment là, je suis ventre à terre dans ma cuisine et j'ai du mal à reprendre mon souffle. Mais à cheval, je me suis fait quelques frayeurs aussi parce que je suis un peu peureuse quand même. Hein. On a l'impression comme ça que je me démonte pas, mais j'en menais pas large quand même quand il fallait galoper au triple galop. Ça va très très vite, et puis je veux dire, c'est très impressionnant un cheval, c'est on n'est pas grand chose quoi, c'est
je suis à la recherche de danseurs qui m'émeuvent, et même quand ils ne bougent pas, quand ils sont complètement statiques, je vais être émue. Ça c'est le début, c'est le prémisse d'un artiste pour moi. Je suis intéressée par des artistes qui écoutent plus qu'ils ne parlent. L'écoute a lieu quand vous n'attendez plus de prendre la parole. Et lorsque vous écoutez, vous pouvez en effet répondre. Quand vous parlez d'abord,
ce
n'est pas une collaboration.
Vous
collaborez uniquement avec vous-même.
On entend le chorégraphe Akram Khan sur France Inter en 2019 au micro de Leïla Kadour. Mélanie Thierry, vous avez pris des cours de danse avec lui pour la publicité de Belle d'Opium d'Yves Saint Laurent. Ben oui, mais alors j'ai
quelle
lu la publicité
inouïe, j'ai eu.
Pour préparer l'émission. Mais... vous êtes incroyablement envoûtant dedans, vous êtes Salomé dans La Danse des Sept Voiles.
Un peu.
Vous le dites tout de go, oui. Et alors,
c'était l'intention.
C'est le cas, c'est très impressionnant. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque rôle vous marque, c'est vous qui le dites, physiquement. Et par exemple, quand vous êtes Mariana et que vous parlez en ukrainien, et ça c'est Emmanuel Finkel qui le dit, vous ne vous mouvez pas de la même manière qu'en français.
Bah non, mais je ne fais pas exprès. Non, mais c'est parce que c'est physique de parler une autre langue. T'es obligé d'aller le chercher dans le corps, c'est pas juste théoriser, je veux dire, c'est tout le corps qui se met en mouvement et puis à force de le travailler, à force de l'entendre, à force de dialoguer avec elle, bon bah c'est une autre façon de bouger quoi. Mais sur la publicité où j'ai pu apprendre à danser, où Akram Khan m'a donné un certain nombre de leçons, hein, parce qu'en plus c'est quand même assez fabuleux. C'est un spot publicitaire, ça dure combien de temps un spot publicitaire?
Quelques secondes.
Mais c'était des mois d'apprentissage. C'était génial. Je me suis installée à Londres et tous les jours j'allais au studio de danse. Ça c'est les meilleurs moments. Mais ça m'est arrivé aussi une fois avec Découflé, où j'avais fait tout un stage comme ça pendant 15 jours dans son studio à Saint-Denis en préparation d'un truc qui est tombé à l'eau. Mais bon, peu importe. Mais quand on engage autant le corps avec la danse, c'est les moments qu'on préfère. Les acteurs adorent ça. Bah moi en tout cas. Je me suis éclatée.
Vous serez bientôt dans un film d'Alex Lutz.
Oui.
Connemara. De quoi s'agit-il?
C'est l'adaptation de Nicolas Mathieu, d'où le même titre, où il s'agit de Hélène, il me semble. Hein, Hélène qui fait un gros burn-out et qui décide du coup de rentrer dans sa province natale et de repartir un peu à zéro. Parce qu'elle a été abîmée par la vie et le boulot à Paris, quoi. En tout cas, besoin de revenir à quelque chose de plus simple et de remettre les choses en place au fur et à mesure, un pas après l'autre. Et voilà, elle retourne dans sa province.
J'aime bien terminer l'émission par des recommandations de lecture. Et j'ai lu que vous lisiez, à une période de votre vie, Mélanie Thierry, les contes Peul d'Amadou Ampateba. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez un petit mot.
Ah, c'était il y a longtemps, hein. C'était à l'adolescence. Je devais avoir un genre de 15-16 ans maximum. Euh, et, euh, comment m'était parvenue cette lecture? Qui me l'avait conseillée? Oh, j'en ai plus la moindre idée. Mais ça m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé ça très beau. Je m'en souviens plus.
Ah, alors, est-ce que vous avez une recommandation, n'importe laquelle, de n'importe quelle époque, ou alors un livre que vous lisez
Moi,
en
j'adore.
Ce moment.
On en a parlé beaucoup d'Appelfeld, mais c'est vrai qu'il est assez méconnu. Déjà, c'est la première adaptation qui se fait au cinéma, et je trouve que c'est un écrivain majeur.
Vous avez lu le livre, évidemment.
Oui, mais je connaissais déjà avant. J'avais lu son autobiographie, Une histoire simple, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est absolument bouleversante. Et puis il a une façon d'écrire qui est très simple, ça, c'est dans les silences, c'est dans la retenue, c'est dans la pudeur. Ensuite j'avais lu ce livre qui était merveilleux, c'était d'une beauté, ça m'avait foudroyée, qui s'appelle Les jours d'une stupéfiante clarté. Je crois que c'est le premier livre avec lequel j'ai démarré Appelfeld. Et c'est bouleversant, c'est beau, et puis c'est d'une grande sobriété aussi.
Merci Mélanie Thierry.
Merci.
Vous êtes à l'affiche du film La Chambre de Mariana d'Emmanuel Finkiel en salle dès demain, et on pourra bientôt vous voir dans Connemara d'Alex Lutz. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Emma Bouvier. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Fabrice Desmaz.